Direct en jeu, la radio insolite. Il faut du temps, il faut toujours laisser du temps au temps, comme on m'a appris en région lyonnaise et tout. Et bien là, justement, à Besançon, ils savent utiliser et ils savent évaluer le temps, parce que je suis actuellement avec...
Alexandre Caillé, je suis guide conférencier à Besançon, notamment au musée du temps.
Je ne savais pas que le temps avait besoin d'avoir un musée.
Oui, qui est différent un petit peu d'un musée d'horlogerie. Hein. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est que le temps? Bien rappeler que voilà, ça vient de l'espace, des astres. Et comment les hommes, ils ont compris ça depuis la préhistoire, comment ils ont essayé de le mesurer. Et c'est une préoccupation quasiment depuis toujours de l'être humain.
Ce qui m'a un peu fasciné, c'est, on vient de faire la visite du musée, c'est qu'on remonte à des temps très anciens. Et on se dit que bah, les gens, les habitants, ils connaissaient déjà pas mal de choses.
Oui, c'est ça. On a vu tout à l'heure le cadran solaire, par exemple, qui est une invention égyptienne de 1500 ans avant Jésus-Christ, qui est déjà une amélioration du gnomon, qui est un bâton, tout simplement, qu'on plantait dans le sol pour surveiller l'évolution de la journée avec le soleil. Et on suppose que ça peut dater de la préhistoire. En effet, on a retrouvé aussi des galets gravés, qui ont 35 000 ans. Et si on regarde un petit peu les points qui sont gravés dessus, ça correspond quand même fortement au cycle lunaire. Donc l'homme a toujours eu cette préoccupation du temps pour sa survie. Maîtriser le temps, c'est maîtriser les saisons, la culture, l'élevage, le déplacement des troupeaux. Et donc tous les grands peuples qui ont eu des calendriers, les Incas, les Égyptiens, c'était des grands peuples d'agriculteurs. C'est lié à la survie en fait.
C'est ça qui est original parce que le temps n'a pas la même définition aujourd'hui qu'hier.
Ah oui, alors là, pas du tout. En effet, un agriculteur égyptien de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ s'occupe de la saison principalement et n'a pas d'heure. Donc après, nous avons vu l'exemple du Moyen-Âge. Les religieux, ils ont à peu près 7 heures par jour, qui sont des heures assez longues et qui varient en fonction des saisons. Les heures sont plus longues en été et plus courtes en hiver. Donc, en fonction des époques, du métier où on est, de la place qu'on a dans la société, on n'a pas du tout le même calendrier que le voisin qui fait autre chose.
C'est quelque chose de très précis, très pointilleux, très minutieux en fait, de mesurer le temps.
Oui, ça peut paraître simple, mais en réalité le temps déjà ne s'arrête pas, ne se termine jamais. Et trouver un objet qui arrive à suivre son cours, le temps est lent et inarrêtable, ça a toujours été un immense défi. Donc y avait les cadrans solaires, il y avait les sabliers, il y avait les bougies. On voit bien que l'homme en fait a essayé plein de choses pour essayer de suivre le temps, mais n'était jamais assez satisfait, veut toujours progresser. Et c'est là que l'homme invente une machine en général pour faire le travail à sa place. Donc c'est l'arrivée d'horlogerie, qui comme on l'a vu, va mettre quelques siècles avant de commencer à être à peu près précise. Mais oui, c'est ça. C'est le temps est très, très, très difficile à mesurer.
Une chose qui m'a un peu surpris, qui m'a même choqué, c'est pour vous, la Terre n'est pas plate.
Oui, il paraît. Je crois sur parole des scientifiques, n'étant jamais allé dans l'espace. Mais oui, la Terre, en effet, ça, ce qu'on appelle la rotation de la Terre sur elle-même, c'est ça la journée. Donc, si la Terre tournait en 48 heures, nos journées dureraient 48 heures. Et une année, c'est la rotation de l'astre autour du Soleil. Si la Terre accélérait ou ralentissait, nos années changeraient. Et pour faire un peu mal à la tête à tout le monde, il y a des planètes où l'année est plus courte que la journée. Elle tourne plus vite autour du Soleil qu'elle ne tourne sur elle-même.
L'année est plus courte que la journée.
Oui. Mercure, elle tourne plus vite autour du Soleil qu'elle ne tourne sur elle-même.
En quoi c'est important de mesurer le temps?
Alors principalement, donc on avait vu l'impact sur l'agriculture, mais pour le commerce, pour faciliter les échanges, et aujourd'hui beaucoup la télécommunication. Faire circuler une information assez rapidement. On parle à la radio, par exemple. Les communications sont gérées par des horloges. Le GPS actuel est géré par l'horloge la plus puissante du monde, qui est une horloge à césium.
Qu'est-ce qu'il dit?
La césium, c'est un atome qu'on électrifie.
Qu'est-ce qu'il dit?
Oui, parfois, je suis un peu pas clair. Hein. le césium, c'est un atome. On l'électrocute et il tremble à une fréquence qui est d'une stabilité à toute épreuve. Et qui est très proche du temps, de la seconde parfaite. Et donc une horloge à césium, il lui faut des millions d'années avant de se tromper d'une seconde. Donc vous devez s'équiper de ça.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Quoi. C'est...
Oui, bah, une horloge à césium, ça date des années 60. L'horlogerie, ça date du milieu du Moyen-Âge. Et puis, cadran solaire, 1500 ans avant Jésus-Christ, les clepsydres, pareil. Et les calendriers, c'est plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Et il y a les Chaldéens, par exemple, qui ont, il y a 6000 ans, fait le calcul des éclipses. Vous savez combien d'éclipses par an, où est-ce qu'elles apparaissaient il y a 6000 ans. Et leur calcul, on l'a et il est toujours juste.
Alors, quand on visite le musée du temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut penser qu'il n'y a que des horloges, des montres et tout. Pas du tout. Non, on se retrouve en Espagne. J'ai résumé à peu près la chose.
Alors là, ça peut vraiment paraître très bizarre, mais oui, on peut se retrouver en Espagne, en Franche-Comté au XVIe siècle, puisque historiquement, le bâtiment, c'est le musée d'histoire de la ville. C'est un palais qui est magnifique, qui est du XVIe siècle. On est dans un écrin qui date de 1534, avec des colonnes, une cour à l'italienne. Et en fait, vivait là la famille, une des familles les plus puissantes d'Europe, qui était les Granvelles. Il y avait l'empereur Charles Quint. Et Charles Quint possédait la moitié du monde sous sa coupe, dont la Franche-Comté. Et quand il va abdiquer, à la fin de son règne, il va la léguer à l'Espagne. Donc la Franche-Comté, en effet, à la fin du règne de Charles Quint, devient espagnole. On se retrouve aussi dans ce musée plongé dans le temps un peu politique, énigmatique de la Franche-Comté, Quénage et la Renaissance, et qui en fait n'est pas un territoire français à l'époque.
Ce qui est intéressant au premier étage, c'est qu'on se balade un peu dans l'univers de cette famille.
Oui, on a même le portrait de M. Granvelle, donc Nicolas, celui qui va faire la construction suivre la construction du palais. Et puis on a vu aussi celui d'Antoine, son fils aîné, qui va lui succéder en tant que chancelier de Charles Quint. On a eu quand même deux Granvelle qui ont été au premier poste en Europe à l'époque. Voilà, on estime à peu près leur fortune à la cinquième fortune d'Europe à l'époque, avec une collection d'œuvres d'art magnifique. Il y avait du Dürer ici, il y avait des Cranach, et donc les plus grands artistes de cette époque-là. Donc, c'est logique pour quelqu'un de puissant en Europe d'utiliser l'art, sa puissance justement. Donc, d'où des collections à Besançon qui sont incroyables, notamment au niveau de la Renaissance grâce à cette famille-là.
Une question que j'ai oublié de vous poser, pourquoi un musée du temps à Besançon? Qu'est-ce qui est spécial à Besançon?
On est une région liée à l'horlogerie depuis le 10e siècle, les horloges comtoises par exemple. La proximité avec la Suisse a toujours fait que la Franche-Comté était une région horlogère. Et après, musée du temps, parce qu'il y a déjà beaucoup de musées sur l'horlogerie, dans le Haut-Doubs, dans le Haut-Jura et en Suisse, il fallait un petit peu se distinguer, se marquer. Donc le choix avait été fait en 2002 de faire un musée sur le temps. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le temps? Comment on le mesure? Puis comment les artistes aussi, ils le représentaient, et ça à différentes époques. On a vu pas mal de crânes et d'ossements tout à l'heure, mais rappeler la fragilité de l'existence humaine par le temps, ces artistes faisaient. Ça se distingue complètement d'un musée d'horlogerie.
Et d'ailleurs, il y a trois tableaux qui sont assez extraordinaires, où en fait on a des squelettes, et c'est pas du tout négatif, vous me disiez, au contraire c'est positif, surtout que c'est installé à l'entrée de l'hôpital.
Oui, ça veut dire, rappelle-toi que tu vas finir comme ça. On a même un tableau avec un bébé qui joue avec des ossements. On peut le considérer que c'est ses ossements à lui plus tard. Ça veut dire, rappelle-toi que tu vas finir comme ça, donc sois humble, respecte les règles de la vie. Alors à l'époque, c'était surtout des règles religieuses, mais on pourrait le transposer complètement aujourd'hui. C'est pas parce que tu es riche, célèbre et puissant que tu vas pas finir comme ça, tu vas finir comme tout le monde.
Jolie philosophie, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses très positives à découvrir ici.
Oui, beaucoup même. La preuve, hein, tu étais très surpris du coup, hein, sur les collections, comme la plupart des gens. Ils ne s'attendent pas à voir ça et... Comme Besançon de manière générale, beaucoup de gens ne connaissent pas du tout Besançon et sont assez émerveillés par la ville. Un patrimoine assez riche, historique et naturel.
Parce que ce qui est bien, c'est qu'on découvre Besançon il y a très longtemps avec un petit jeune qui s'appelle Vauban, je crois, c'est ça?
Oui, qui n'est pas très connu, hein, qui travaillait pour un patron un peu plus connu que lui, Louis XIV. Ouais. Oui, non, Vauban a fortifié Besançon comme Belfort et le Château de Joux dans la région aussi. C'est normal, on est sur une région proche de la frontière, notamment allemande. Et donc, des régions qui étaient fortifiées, qui étaient contrôlées par l'armée. Nous, on est monté quand même à plus de 30 000 hommes à Besançon en 14-18. Donc, c'est une ville fortifiée, une ville militaire et qui a un gros patrimoine là-dessus. Et pour ça qu'on a du patrimoine, c'est qu'il a protégé la ville pendant les guerres et on y monte à peu près toutes les époques.
Les grandes marques, j'ai vu Lippe, j'ai vu Piaget, j'en ai oublié certaines, je crois.
Ouais, les grandes marques horlogères, on a un espace au deuxième étage qui reprend. Ces grandes marques de Besançon, alors Lippe est évidemment le numéro 1, qui est une entreprise horlogère française. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus, qu'on présente aussi, Tribodeau, Dodan, alors qui sont connus des gens qui travaillent dans l'horlogerie, mais du grand public, pas tellement. Et voilà, pour rappeler que Besançon, ça a été une très très grande ville de l'horlogerie, la Franche-Comté de manière générale, a pesé jusqu'à 15-20% de la production mondiale. On essaie de montrer aussi.
Avec une technicité assez conséquente, si je ne dis pas de bêtises, tu m'avais dit Tribodeau, c'est 40 salariés qui produisaient 500 000 montres, quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai que c'est des entreprises qui étaient capables de fabriquer énormément, avec entre guillemets assez peu d'employés. Et l'horlogerie a toujours été hyper innovante. Une montre en moyenne, c'est une montre mécanique, hein, c'est quand même 130 pièces minimum. Donc vous avez besoin de presque une centaine de fabricants différents pour avoir ces pièces-là. Déjà, ça a été toujours complètement éclaté comme production. Et on a toujours été aller chercher des technologies qui permettaient de produire plus vite. Donc nous, on a des usines du vaudou, perdu dans la campagne, qui avait la machine à vapeur, électricité, dans certains quartiers de Paris. Pour l'horlogerie, justement, pour se développer.
Une montre, c'est ce qui est marrant aussi, c'est de voir comment dire que, suivant l'époque, les montres étaient d'abord un objet de luxe, ensuite un objet, j'allais dire, un bijou. Et puis aujourd'hui, bah, tout le monde en a une, quoi.
Oui, c'était un peu le côté comique de la fin de ma visite, c'est que j'ai expliqué au début que la montre ne servait à rien. C'était vraiment un objet de luxe qui coûtait très cher, qui fonctionnait très très mal, que l'on montrait. Donc le mot montre vient de là d'ailleurs, je montre ma richesse à l'autre. Puis c'est devenu un objet très technique. Avec nos technologies actuelles, à quoi sert une montre? Bah, rien du tout non plus.
La preuve, j'en ai pas.
Voilà, la preuve, et on a le temps quand même. Donc le plus fiable qu'on peut avoir comme horloge, c'est un téléphone portable. Il n'y a pas plus fiable que ça. Et pourtant, en effet, tu as très bien dit, les gens ont de plus en plus de montres. L'horlogerie repart à la hausse, et en plus, c'est des montres mécaniques. Pourquoi acheter quelque chose qui fonctionne beaucoup moins bien qu'un téléphone portable? C'est redevenu en fait ce que c'était au XVIe. Un bijou, voilà, faut voir ça comme un signe d'appartenance, une société, un groupe d'individus.
Moi, j'aimais bien les montres avec les petits trucs que tu tournais, que tu remontais toi-même. C'était marrant, c'était rigolo.
Oui, là, on remontait le ressort moteur, qui est l'ancêtre de la pile, qui est tout simplement une lame de métal qui est enroulée sur elle-même. Puis quand on tournait, voilà, on serrait le ressort, on le contractait, et lui, il n'avait plus qu'une envie, c'était de se déplier. En effet, il faut l'action de l'homme pour entretenir la batterie, en fait, notre montre. Il y a des montres automatiques aussi, où il faut toujours l'avoir au poignet, il faut bouger, et ça se remonte automatiquement. Bah, c'est ce que les gens aiment de plus en plus, d'ailleurs. Moi, ce qui me fait beaucoup rire sur les montres aujourd'hui, c'est que des fois, on n'a même plus de cadran, voire plus d'aiguille. On voit en fait la mécanique tourner dessous. Ça montre bien qu'on n'est pas là pour voir l'info qui est dessus. On est là pour prestige de l'outil mécanique.
C'est le quartz qui a mis à mal beaucoup d'entreprises ici.
Oui, c'est la raison numéro une. Il y en a plein d'autres, comme souvent dans une crise. La concurrence internationale. La France avait perdu aussi ses colonies. Et c'était un énorme marché pour elle. Mais en effet, le quartz, c'est un élément assez déterminant là-dedans, puisqu'un cristal de quartz est électrocuté par la pile dans votre montre. Et il va trembler à une fréquence qui est assez proche d'une seconde parfaite. Bah, sur une montre, même les meilleures, il y avait quand même plusieurs secondes d'erreur par semaine. Et là, il faudra des milliers d'années avant qu'il y ait une seconde d'erreur. Et le quartz coûte beaucoup moins cher. Que de mettre moins cher, beaucoup mieux. En général, c'est une crise.
Allez, on finit par la montre à 26 complexes.
Oui, le Roi 01, qui a été la montre la plus compliquée du monde. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'horlogerie, une complication sur une montre, c'est quand on vous donne une info en plus de l'heure. Donc au 19e siècle, il y a un Portugais qui est venu à Besançon pour avoir la montre la plus compliquée du monde dans sa collection. Apparemment, ça faisait un moment qu'il tournait, qu'il cherchait, et donc à Besançon, ils ont réussi à lui produire la Le Roi 01. Alors qu'il y a une montre en or qui est assez énorme, hein, perles et diamants dessus, et 24 complications. Donc elle peut nous donner l'heure à Tahiti et à Paris en même temps, nous dire à quelle heure le soleil va se lever, quelle forme va avoir la lune tous les soirs, et nous régale mécaniquement, sans wifi, sans internet.
Merci.
Pas de rien, merci à toi pour ta visite. Et on attend beaucoup de visiteurs.
Ah oui, on rappelle, le musée du temps, c'est à Besançon, les horaires?
Alors les horaires sont de 10h jusqu'à 18h. En semaine, on fait une coupure entre midi et 2, le week-end c'est ouvert tout le temps. Et puis, bah, y a plein d'animations, d'expositions qui sont prévues toute l'année pour les plus grands et beaucoup pour les plus petits aussi. Faut pas hésiter à venir en famille au musée. C'est vraiment fait pour toutes les générations.
On peut peut-être parler d'ailleurs de l'expo qui commence fin novembre.
Oui, fin novembre, une grande exposition sur la fameuse entreprise LIP. C'est l'anniversaire de la grande grève de LIP de 73. On est en 2023. Et donc toute la ville de Besançon se met ce sujet-là. Et nous, vraiment, l'exposition, ça va être raconter l'histoire de l'entreprise. Voilà, elle est née au 19e siècle, comment elle s'est développée, son service de recherche et développement, sa publicité révolutionnaire pour l'époque. Et puis donc la fameuse grève qui a rendu Marc encore plus célèbre.
Merci, merci.
De rien, bonne journée.